Bonsoir à toutes et à tous. Le monde d'aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 1er octobre 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Après le débat tendu qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump, c'est au tour de leurs colistiers Tim Walz et J.D. Vance qui prennent part ce soir à leur premier et peut-être unique débat. En Tunisie, le candidat à la présidentielle Hayati Zamel condamné à 12 ans de prison à 5 jours de l'élection présidentielle. Au Proche-Orient, des missiles ont été tirés au-dessus de Jérusalem ce mardi soir au lendemain du lancement d'une offensive terrestre de l'armée israélienne au Liban. Et dans notre partie magazine, ici aux États-Unis, les ouvriers des ports du Maine au Texas ont commencé une grève qui pourrait raviver l'inflation et provoquer des pénuries de marchandises.
Ce qu'ils doivent faire, c'est payer à ces hommes et à ces femmes un salaire équitable.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Trois semaines exactement après le débat tendu qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump, c'est au tour de leurs colistiers Tim Walz et J.D. Vance de prendre part à leur premier et peut-être unique débat sur la vice-présidence. La rencontre pourrait être le dernier débat permettant aux deux colistiers de faire valoir leurs arguments avant l'élection de novembre. Nous avons direct de New York notre envoyé spécial Alexandrine Holognon.
Bonsoir Rosine, je suis actuellement à Manhattan, à New York, devant les locaux de la chaîne CBS qui organise et abrite ce débat. Il y a actuellement des manifestations en soutien aux démocrates Tim Walz, mais aussi quelques manifestants pro-Trump que nous avons aperçus tenant des pancartes. On peut y voir également des voitures de policiers pour la sécurité et bien sûr une horde de journalistes pour couvrir l'événement. Le débat, vous l'avez dit, aura lieu à 9h du soir, heure locale ici. Permettra à Vance, sénateur républicain de l'Ohio, et à Walz, gouverneur démocrate du Minnesota depuis 2 ans, de se présenter au public, de défendre leurs policiers et de passer à l'attaque contre les candidats adverses. Les deux concurrents sont aux antipodes sur les grands thèmes en jeu lors du scrutin du 7 novembre, de l'avortement à l'aide à l'Ukraine, des armes à feu aux priorités énergétiques, des mesures fiscales ou encore la lutte contre l'inflation. L'ouragan Helene, qui a fait plus de 110 morts et provoqué des inondations dévastatrices aux États-Unis, pourrait également s'inviter dans les échanges ce soir, les républicains accusant les démocrates d'avoir mal géré la catastrophe. Et selon certaines analyses, le face-à-face de ce soir pourrait avoir un impact considérable. Les sondages ont montré que la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump sont en concurrence étroite, ce qui donne plus de poids à tout ce qui peut influencer les électeurs à la marge, y compris l'impression laissée par le candidat à la vice-présidence ce soir, Rosine.
Merci Alexandrine. C'était donc notre envoyé spécial à New York, Alexandrine Holognon. Au Proche-Orient, des missiles ont été tirés au-dessus de Jérusalem ce mardi soir, quelques minutes après que l'armée israélienne a annoncé que des missiles ont été tirés d'Iran vers Israël. Ces développements surviennent au lendemain du lancement d'une offensive terrestre de l'armée israélienne au Liban. Le point avec Mouamadou Oumfa.
L'Iran a tiré des missiles sur Israël où les sirènes d'alerte ont retenti dans l'ensemble du territoire après que l'armée a appelé la population à se préparer à une attaque à grande échelle. Des missiles d'interception ont été tirés par l'armée israélienne au-dessus de Jérusalem contre des projectiles venant de l'Est, visibles à leurs traces lumineuses selon des témoins. Des dizaines de détonations ont été entendues et des explosions étaient visibles dans le ciel. Le trafic a été totalement interrompu à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. L'attaque iranienne est survenue le jour où Israël a annoncé des opérations militaires au sol dans le sud du Liban contre le Hezbollah, ennemi juré d'Israël, et 4 jours après l'assassinat du chef du mouvement libanais Hassan Nasrallah dans un raid israélien près de Beyrouth. Les gardiens de la révolution ont promis des attaques écrasantes si Israël réplique aux tirs de missiles. Plus tôt ce mardi, l'Agence nationale d'information libanaise a rapporté 2 frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement islamiste Hezbollah. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir tiré des salves de roquettes en direction de la base aérienne de Sde Dov, près de Tel Aviv, 2e attaque visant cette région israélienne en quelques heures.
Mark Rutte a entamé mardi son premier jour à la tête de l'OTAN en réaffirmant avec force le soutien de l'Alliance à l'Ukraine. balayant au passage les craintes qui entourent un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour sa première conférence de presse, le nouveau secrétaire général de l'Alliance s'est montré ferme dans la continuité de son prédécesseur sur la nécessité de poursuivre le soutien à l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine doit réaliser que l'OTAN ne cédera pas dans son soutien à Kiev, a-t-il ainsi souligné, alors que les appels à l'ouverture des négociations se multiplient.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une coalition d'opposition au Sénégal a désigné l'ancien président Macky Sall tête de liste aux législatives anticipées de novembre. On dit mardi deux responsables de l'ex-majorité. Un de ces responsables, l'ancien ministre Mansour Faye, a indiqué que M. Sall avait accepté d'être tête de liste de la coalition Takou Wallou Sénégal. Le premier ministre Ousmane Sonko a de son côté été désigné tête de liste de son parti PASTEF aux législatives du 17 novembre, a confirmé le PASTEF mardi. Au Ghana, des organisations citoyennes appellent à 3 jours de manifestation de jeudi à samedi pour réclamer la libération de 54 personnes arrêtées après un rassemblement contre la vie chère et l'exploitation minière illégale. Les précisions de John Lyndon.
Les manifestations doivent se tenir à Accra, la capitale, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué publié lundi soir. Elles ont été approuvées par la police. Outre la libération des personnes arrêtées, les manifestants entendent demander au gouvernement de mettre fin à l'exploitation minière illégale aux conséquences environnementales désastreuses. Cette mobilisation vise à sauver nos plans d'eau et libérer nos citoyens dont la plupart ont été arrêtés illégalement, a déclaré l'un des organisateurs. Des manifestants ont été arrêtés les 22 et 23 septembre pour trouble à l'ordre public et placés en détention provisoire par un tribunal pour 2 semaines. Dans une déclaration publiée sur Facebook, John Mahama, candidat à l'élection présidentielle de décembre et leader du Congrès démocratique national, a dénoncé des mesures autoritaires.
Quelques manifestations ont eu lieu mardi au Nigeria afin de dénoncer la politique économique du président Bola Ahmed Tinubu. Ces manifestations, à l'appel d'organisations politiques et de la société civile, se tiennent le jour de la fête nationale du Nigeria qui célèbre le 64e anniversaire de son indépendance. Les manifestants ont réclamé la fin de la faim et de la misère et la baisse des prix de l'essence, de l'électricité et de l'alimentation. Ces manifestations n'ont été que peu suivies. Les avocats d'Eugène Rwamucho, jugés devant la cour d'assises de Paris, ont demandé mardi le renvoi du procès dénonçant un nombre trop important de demandes de constitution de parties civiles. Ce matin, on nous a présenté environ 800 demandes de constitution de parties civiles. Alors que jusqu'à présent, il n'y en avait que 4, toutes des associations à fustiger Maître Philippe Melhac. En Tunisie, un tribunal a condamné ce mardi le candidat à la présidentielle Ayachi Zamel à 12 ans de prison pour falsification de documents. Il s'agit de la 3e peine de prison infligée à M. Zamel en 2 semaines et elle a été annoncée 5 juin présidentiel. Le point avec Jean-Roger Billon.
La justice reproche à Ayachi Zamel d'avoir enfreint les règles sur les parrainages réputés difficiles à obtenir selon les experts. Âgé de 47 ans, il est l'un des 3 candidats retenus dans une liste définitive de l'autorité chargée des élections ISIE, aux côtés du président sortant Kais Saied, 66 ans, et de Zouer Magzaoui, 59 ans, un ancien député de la gauche panarabiste. M. Zamel a été arrêté le 2 septembre, le jour même de la confirmation de sa candidature. Des ONG tunisiennes et étrangères ont critiqué ces dernières semaines le processus de sélection des candidats. Pour Human Rights Watch, au moins 8 candidats potentiels ont été poursuivis en justice, condamnés ou emprisonnés et de facto empêchés de se présenter. D'autres prétendants au poste sont plaints d'avoir été entravés sur le plan administratif pour obtenir divers documents permettant de constituer leur dossier.
Au Mali, 4 employés de la compagnie minière canadienne Barrick Gold, qui possède avec l'État malien l'un des plus importants complexes aurifères au monde, ont été libérés. Les 4 personnes ont été arrêtées la semaine dernière, selon un responsable de la justice malienne qui n'avait pas donné de précision sur le motif de ces interpellations, ni les fonctions et les identités des 4 employés. Barrick Gold Corporation a annoncé lundi dans un communiqué avoir trouvé un accord avec le gouvernement malien. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Au Nigeria, de rares manifestations ont eu lieu ce mardi afin de dénoncer la politique économique du président Bola Ahmed Tinubu. Les manifestants ont réclamé la fin de la faim et de la misère et la baisse des prix de l'essence, de l'électricité et de l'alimentation. Organisées par des mouvements politiques et de la société civile, ces manifestations n'ont été que peu suivies. Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 1800 francs CFA le kilo, un montant record après une année où les cours mondiaux ont atteint des sommets, mais accueillis de manière mitigée par certains producteurs. En Côte d'Ivoire, le cacao représente environ 1 million d'emplois et fait vivre 5 millions de personnes selon le gouvernement. Les principaux actionnaires du Fonds monétaire international pressent le Kenya de demander au FMI une évaluation des problèmes de corruption et de gouvernance dans le cadre d'un effort visant à débloquer les prêts qui ont été bloqués par l'abandon des hausses d'impôts. Les autorités kényanes sont à la recherche d'avoir annulé les augmentations d'impôts.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Samuel Eto'o suspendu par la FIFA.
Oui, le président de la Fédération camerounaise de football est suspendu 6 mois de tous les matchs des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du mondial féminin des moins de 20 ans. La commission de discipline de la FIFA reproche à Samuel Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors du 8e de finale perdu par les Camerounaises contre le Brésil 3-1 après prolongation à Bogota en Colombie. La délégation camerounaise avait contesté le pénalty de l'égalisation des Brésiliennes. La FIFA a précisé que la suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la Fédération camerounaise de football, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. Pour Amine Birouk, notre consultant sportif, cette sanction tombe sur un Eto'o déjà un peu affaibli par son conflit avec le ministre des Sports de son pays.
La commission de discipline de la FIFA n'est pas allée de main morte. Ça fait aussi pencher la balance dans le conflit entre le ministère et la FECAFOOT en faveur du ministère qui continue à polluer l'ambiance des Lions Indomptables du Cameroun et du football camerounais. Samuel Eto'o, touché mais pas coulé, on verra comment il pourra peut-être faire appel et voir cette sanction quelque peu allégée. Mais on ne le verra pas lors de la double confrontation des Lions Indomptables face au Kenya dans quelques jours lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.
Amine Birouk, consultant sportif.
En Europe, les matchs de la 2e journée de la Ligue des Champions se disputent ce soir.
Au programme, entre autres, le choc Arsenal du Ghanéen Thomas Partey, Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi. Les Gunners n'ont pas réussi à gagner à Bergame contre l'Atalanta 0-0 en ouverture de la Ligue des Champions. L'entraîneur parisien Luis Enrique a choisi de se priver de l'une de ses stars, Ousmane Dembélé, après avoir eu un différend avec lui. Autre grosse affiche ce soir, Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba et du Nigérian Victor Boniface face à l'AC Milan. Dortmund et le Guinéen Serou Guirassy affrontent le Celtic Glasgow.
Et enfin, ici en NBA, Joel Embiid dit vouloir tout faire pour jouer les phases finales.
Cette saison, il n'y a pas d'agenda, il n'est pas question de All-Star, il n'est pas question de All-NBA. Il est question de tout faire pour arriver et être prêt pour les phases finales. C'est ce qu'a déclaré le pivot camerounais, leader des Philadelphia Sixers. Je crois tout simplement qu'à chaque saison, j'ai été blessé pour les playoffs, a ajouté Joel Embiid, qui compte 7 participations au All-Star Game. Les Sixers ont été éliminés au premier tour des playoffs la saison dernière par les Knicks de New York, alors qu'Embiid était diminué par une blessure au genou. Pour moins peser sur son genou, le joueur de 2,13 m a confié avoir perdu 11 à 13 kilos. Les Sixers affichent de grandes ambitions cette saison avec Embiid, Tyrese Maxey et les recrutements d'un des meilleurs ailiers de la NBA, Paul George, en provenance des Los Angeles Clippers et du français Gershon Yabusele, époustouflant et déterminant dans le parcours des Bleus jusqu'en finale des Jeux Olympiques de Paris.
Merci Yacouba. De nouveau avec vous, Roselyne Monet-Zero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, les candidats à la vice-présidence J.D. Vance et Tim Walz se rencontrent ce soir pour leur premier et unique débat. Scott Stearns, correspondant de la VOA, se penche sur ce qui attend les colistiers lors de leur débat télévisé à New York. Récit Yacouba Ouedraogo.
Tim Walz et J.D. Vance vont débattre pendant 90 minutes à la télévision avec deux modérateurs et sans public. Vance, qui se présente aux côtés de Donald Trump, est un sénateur de l'Ohio, un État du Midwest. Il estime que le débat est l'occasion de montrer comment les Républicains vont améliorer l'économie et sécuriser la frontière.
C'est une occasion pour moi de dire au peuple américain comment je pense que nous pouvons améliorer leur vie et comment les politiques de Donald Trump peuvent les rendre plus prospères, pour rendre le monde plus pacifique et sécuriser la frontière sud. Si nous faisons tout cela, nous gagnerons.
Walz est un gouverneur de l'État du Minnesota dans le Midwest et se présente aux côtés de Kamala Harris. Il affirme que les démocrates s'occupent des Américains de la classe ouvrière, contrairement à son adversaire.
Comme toutes les personnes ordinaires avec lesquelles j'ai grandi dans le cœur du pays, J.D. a étudié à Yale, sa carrière a été financée par des milliardaires de la Silicon Valley, puis il a écrit un best-seller qui dénigre cette communauté. Ce n'était pas ce qu'est l'Amérique moyenne. Et je vous dis que j'ai hâte de débattre avec ce type.
Vance est un ancien critique de Trump qui a obtenu le soutien de l'ancien président pour sa candidature au Sénat. Depuis, il s'est rallié à l'approche « America first », l'Amérique d'abord de Donald Trump.
Nos ennemis et de nombreux démocrates nous qualifient de populistes comme s'il s'agissait d'une insulte. Mais si être populiste signifie être du côté des travailleurs plutôt que des élites puissantes qui ont vidé notre classe moyenne de sa substance et nous avons envoyé dans des guerres étrangères stupides, alors je suis partant.
Vance a récemment déclaré aux dirigeants européens qu'ils devaient payer davantage pour aider l'Ukraine à lutter contre l'invasion russe. Walz affirme que Vance et Trump ont l'intention d'abandonner le leadership des États-Unis.
Lorsque les Républicains parlaient de liberté, nombre d'entre eux étaient sincères. Ils n'allaient pas tourner le dos à nos alliés. Ils n'allaient pas laisser l'Ukraine livrée à elle-même.
Vance estime que Kamala Harris nuit aux travailleurs américains en favorisant les immigrés clandestins.
Ce que Kamala Harris semble vouloir faire, c'est donner tous les avantages de la citoyenneté américaine à des gens qui ne devraient même pas être ici. Et cela va mettre ce pays en faillite et empêcher les gens normaux d'acheter une maison, de faire leurs courses, de bénéficier de ce filet de sécurité sociale.
Walz estime que la carrière de Donald Trump dans le monde des affaires et en politique montre qu'il ne s'intéresse qu'aux riches comme lui.
Il dirige l'économie pour ceux qui sont en haut de l'échelle et rabaisse ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est ce qu'ils font. Vos coûts augmentent, ils abrogent la loi sur les soins abordables et nous ramènent aux conditions préexistantes. Ils réduisent la sécurité sociale et l'assurance maladie, ce qui permet à ma mère de ne pas sombrer dans la pauvreté.
Le débat de ce soir est le dernier prévu avant l'élection du 5 novembre. Le vote anticipé a déjà commencé dans certains États.
Le syndicat des dockers de grands ports de la côte est des États-Unis sont en grève. Les dockers ont commencé à débrayer tôt ce mardi après l'échec d'un nouveau round de négociations de dernière minute entre leur syndicat et l'Alliance maritime. Ils revendiquent une revalorisation des salaires et protestent contre l'automatisation des tâches. Jean-Roger Billon.
Tous les ports entre le Maine, dans le nord-est des États-Unis, et le Texas, dans le sud du pays, sont à l'arrêt depuis ce matin, soit la première grève d'ampleur depuis 50 ans. Boyce Butler, président de l'Association internationale des manutentionnaires, section de Philadelphie.
Ce qu'ils doivent faire, c'est payer à ces hommes et à ces femmes un salaire équitable. Ils ont gagné des milliards et des milliards et des milliards de dollars, d'accord? Des milliards et des milliards et des milliards de dollars pendant le Covid. Ils ont anarché toute l'industrie. Ils ont anarché le gouvernement et tout le monde pendant le Covid. Et maintenant, nous voulons qu'ils remboursent. Ils vont rembourser.
L'autre bataille du syndicat des dockers, c'est l'automatisation des tâches Les travailleurs ne veulent pas se laisser compter. Pour eux, ce nouveau virage est la voie ouverte à la perte des emplois. À nouveau, Boyce Butler.
Devinez quoi? Nous allons nous battre aussi longtemps que possible. Et nous allons résister aussi longtemps que possible, ok? Mes hommes et mes femmes travaillent mieux que n'importe quelle machine. Regardez les chiffres. Les chiffres disent la vérité. Les chiffres disent la vérité.
Le président américain Joe Biden a appelé mardi à des négociations rapides et équitables pour résoudre cette grève des dockers à l'impact économique potentiellement très important, a indiqué la Maison-Blanche.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, les élèves reprennent les chemins de l'école ce 1er octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Une rentrée sur fond de crise d'inondation qui se généralise dans tout le pays. Une situation qui risque de jouer sur ce calendrier puisque beaucoup d'établissements sont inondés et donc difficile d'avoir accès. André Kodmandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point d'Ndjamena.
Après la rentrée des élèves des classes d'examen C, des classes intermédiaires regagnent le chemin de l'école ce 1er octobre. Certains élèves des établissements scolaires situés dans les banlieues de la capitale ont du mal à braver les intempéries pour être en classe, comme en témoignent quelques-uns.
Pour venir, il faut absolument mettre les pieds dans la boue, piétiner jusqu'à venir. Même pour entrer dans la cour de l'école, il y a l'eau devant la porte.
Nous avons l'habitude de danser des briques et de marcher dessus. Il ne faudrait pas être mouillé. Et parfois, nous portons des bottes. Même les salles sont inondées. Ce n'est pas facile même d'accéder, faire des cours.
Une situation qui amenait les responsables du complexe scolaire évangélique La Trompette à revoir le calendrier, quand bien même qu'il y a engouement des élèves et de corps enseignants. Freeman Diasrabe Mberkoubou est le fondateur.
L'eau au niveau de la carrière déborde. C'est déversé ici. Les enfants, tout le monde sortent travers la pirogue pour aller se chercher. Donc, unanimement, nous avons décidé que le lundi 6 octobre, que les enfants viennent, nous allons travailler le matin et le soir pour combler les jours que nous avons ratés.
Les responsables de certains établissements estiment pour leur part que l'inondation est un phénomène naturel qui ne doit pas imposer sa loi.
Nous avions décidé de reprendre les activités aujourd'hui, le 1er octobre. Ce qui nous inquiète un peu, c'est l'état de la route. Nous, on a décidé que les enfants peuvent s'armer de courage, marcher dans l'eau et venir, peut-être pour une semaine, deux semaines après, ça va s'améliorer.
Le ministre en charge de l'éducation nationale, Mamadou Boukar Ghana, est conscient de la situation et informe qu'un comité a été créé au sein de son département pour aider le chef d'établissement à pallier cette difficulté.
La capitale, N'Djamena, étant la référence nationale, c'est bon de donner le bon message ici à N'Djamena pour que les autres autorités déconcentrées copient sur N'Djamena et que la dynamique soit nationale. Soyons optimistes, engageons-nous tous dans les actions, de telle sorte que le calendrier là pour les établissements qui peuvent accueillir soit respecté.
Maître Balamsouma Tiangouroua, coordonnateur de l'Observatoire national de conscience citoyenne, estime que la situation des inondations dans la capitale reste toujours inquiétante et donc il sera difficile de rendre effective cette rentrée scolaire. Il propose ceci.
Nous pensons que les autorités en charge de l'éducation devraient d'abord chercher à trouver des solutions à ces établissements qui sont inondés, puisque les enfants ne peuvent pas aller fréquenter dans l'eau. Et donc déjà, soit c'est repousser légèrement la date de la rentrée scolaire, soit appeler à des actions citoyennes, impliquer la mairie à venir également curer ces eaux-là avec la pompe pour rendre la cour accessible aux élèves pour qu'ils reprennent.
Un autre phénomène dénoncé par certains responsables des établissements publics qui risque de retarder la rentrée scolaire, c'est le comportement de certains sinistrés logés dans ces bâtiments publics qui ont rendu ces locaux insalubres et cassé certains tables-bancs dont la réparation prendra quelques jours. André Godumadingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Rwanda, le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à l'épidémie de Marburg qui a déjà fait 8 morts dans le pays. Cela intervient alors que le Rwanda avait déjà lancé une alerte contre le Mpox. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damasen Manishimwe.
Les mesures d'hygiène personnelle sont renforcées dans tous les lieux publics au Rwanda en réponse aux mesures annoncées par le ministère de la Santé visant à contenir la propagation du virus de Marburg. Dans la foulée, l'ambassade des États-Unis à Kigali a ordonné à son personnel de travailler à domicile et les locaux de l'ambassade sont fermés au public jusqu'au 4 octobre. Dans une conférence de presse, le ministre de la Santé, Sadan Sanzimana, a indiqué que 8 personnes sont mortes du virus et plus de 300 sont placées en isolement.
Au moment où nous parlons, beaucoup a été fait en termes de recherche des contacts, de dépistage, d'isolement et de traitement. Nous faisons aussi la communication pour nous assurer que la population est informée. Nous avons mis en œuvre tous nos mécanismes de réponse avec nos partenaires et des institutions gouvernementales pour arrêter cette propagation le plus rapidement possible et sauver la vie des patients déjà infectés.
Les autorités sanitaires du Rwanda ne parviennent pas encore à identifier l'origine du virus de Marburg signalé au Rwanda depuis une semaine. Le ministère de la Santé espère pouvoir limiter la propagation du virus.
Ce virus a un taux de mortalité élevé qui peut des fois se situer entre 28 et 90%. C'est un grand pourcentage, mais notre but est de réduire le taux de mortalité le plus possible. Les chiffres que j'ai mentionnés concernent essentiellement le personnel de santé.
L'Organisation mondiale de la santé assure son appui et indique qu'il est possible de contenir le virus qui s'est déjà manifesté en Tanzanie en 2023.
Une équipe de 7 experts arrive bientôt et sera intégrée dans une structure déjà mise en place. En plus de ça, nous apportons notre soutien dans d'autres domaines comme le matériel de dépistage. Étant donné que c'est une étape importante dans la maîtrise de cette épidémie, nous allons fournir les équipements de prévention et de traitement. Nous avons fait des arrangements. Une partie de ce matériel arrive cette nuit, une autre demain. Et la semaine prochaine, nous recevons plus d'équipements.
D'autres mesures annoncées par les autorités sanitaires au Rwanda sont l'interdiction des visites aux patients hospitalisés pendant les 14 prochains jours, alors que tous les établissements de santé doivent mettre en œuvre un protocole pour prendre en charge les patients présentant des symptômes du virus de Marburg, tout en respectant rigoureusement les mesures de prévention et de contrôle des infections. Jean-Thomas Selimani-Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnon. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali. Sur 102 FM.